Campagne, bonjour. Les carnets sont pour cette dernière journée dans l'Orne avec Éric Fretel, animateur de l'unique, pour l'instant, émission radio entièrement consacrée à la bicyclette. Il y a peut-être une de côté de chez vous que je ne connais pas, c'est possible, hein. Mais pour l'instant, dans notre mémoire et dans ce qu'on a pu survoler dans les émissions, c'est doit être la seule du genre, conçue sous forme d'une série hebdomadaire de 30 minutes, pause vélo et podcastée jusqu'en Suisse. Et c'est dans les studios de Radio Pulse à Alençon que sont enregistrées les chroniques qui aspirent à une vélorution à grande échelle. Vous pouvez lire en parallèle l'article que Juliette Loiseau a consacré à notre invité dans les pages numériques de La Vie. Dans la seconde partie, c'est d'une autre agriculture dont il sera question. On parlera principalement du boom des micro-fermes avec Sylvie Le Calvez, directrice de publication du magazine Village, dont le numéro de printemps vient de paraître. Et comme les alternatives paysannes ne cessent de fleurir ici et là, je vous invite à rendre visite aux producteurs qui ont ouvert il y a tout juste un an leur halte paysanne à Saint-Georges-des-Groseilliers, on est en périphérie nord de Flers. Pour marquer son premier anniversaire, la halte paysanne organise une journée portes ouvertes le 22 mars, l'occasion de profiter du coin apéritif qui vient d'être créé, histoire de goûter aux chips normandes produites à la ferme ou à la véritable andouillette de Vire. Ce qui laisse sous-entendre qu'il y en a une fausse. Et il y a un lien avec la halte paysanne à nos pages d'émission.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Éric Fretel, bonjour.
Bonjour.
Éric, vous animez Pause Vélo. C'est une émission sur le vélo qui est réalisée depuis les studios de Radio Pulse à Alençon. Et une émission sur le vélo, vous déraillez complètement.
Mais non, non, justement, on est dans l'air du temps. On est en train de tout mettre en place pour sauver l'humanité. Le vélo, c'est vraiment un outil dont on doit faire la promotion parce que il y a tout plein de problèmes économiques, sociaux et écologiques.
Alors, chaque mercredi, il y a 30 minutes d'émission qui sont réservés au vélo, à une approche du vélo, mais on peut décliner à l'infini parce que je vois que vous en êtes déjà à 10 émissions enregistrées.
Oui, une quinzaine même. Nous-mêmes, on était surpris du nombre de thèmes qu'on pouvait donner à l'émission. Par exemple, il y a la journée de la femme, on va faire une émission sur le vélo et la femme, comment le vélo a aidé au début du siècle dernier les femmes à s'émanciper. On a même reçu la semaine dernière un prix Nobel de chimie qui fait du vélo et qui est venu vanter le vélo. En fait, on a des thèmes à l'infini. Pour l'instant, on n'en voit pas la fin. On va faire une pause 2 mois et cet été, jusqu'à fin juin, on a des thèmes, et même plus que ce qu'il faudrait, en fait.
Oui. Moi, j'ai un super thème pour vous, c'est l'évolution professionnelle des cadres.
Alors, éclairez-moi un peu comment on dit les choses.
Les cadres de vélo, non, pardon.
Oui, d'accord. Ok, j'étais parti sur autre chose, mais oui. C'était volontaire de votre part.
Vous puisez vos sources où, tellement c'est abondant en informations?
Déjà sur Internet, il y a tout ce qu'il faut, mais le truc, c'est que il n'y avait pas vraiment un gros podcast qui rassemble tout plein d'infos sur le vélo. Il y a autant pour la voiture, il y a tout ce qu'il faut, hein, même des émissions à télé. Autant sur Internet, il y a des blogs, il y a des associations qui militent, il y a des trucs comme ça, mais il n'y avait pas une émission hebdo, 30 minutes toutes les semaines, voilà, qui vante le vélo et puis pour laquelle on peut faire la promotion du vélo. Et c'est hyper facile d'aller puiser dans toutes ces associations et sur tous ces blogs qu'il y a sur le net, des informations et de les mettre en avant via l'audio, via la radio, en fait.
Alors, vous transmettez depuis Radio Pulse, donc en Normandie, mais oui. Vous êtes aussi, vous avez une écoute sur Redline Radio à Lausanne.
Exact. En fait, le but du jeu, c'est de prêcher la bonne parole le plus largement possible. Donc, on est aussi sur YouTube pour qu'on puisse être écouté un petit peu partout et on recherche des radios qui souhaiteraient nous diffuser. Je veux dire, toute la francophonie, culturellement, il y a quelque chose qui nous unit autour du vélo. Autant les Suisses-Allemands, par exemple, ils font beaucoup de vélo, et les Belges qui parlent le hollandais font aussi beaucoup de vélo. Mais les Suisses qui parlent le français ou les Belges qui parlent le français, eh ben, ils font beaucoup moins de vélo. Donc il y a un lien culturel dans la pratique du vélo. Ben, on veut diffuser sur ces trois pays-là, quoi.
Ouais, mais en entendant votre enthousiasme, Éric, on se dit il y a un projet de société à l'horizon de cette vélorution, comme on l'appelle?
Alors, c'est un projet de société qui sera choisi ou subi. Donc, nous, le but du jeu, c'est qu'il soit choisi. Parce qu'énergétiquement, on va pas pouvoir continuer à dépenser, à dilapider tout ce qu'on a. On entend souvent, ils trouveront bien quelque chose d'autre. Alors, je sais pas ce qu'il fait, mais La réalité, c'est qu'on trouve pas d'autres sources d'énergie. Il y a des sources d'énergie renouvelables, mais on pourra pas en dépenser autant que ce qu'on fait maintenant. Donc, il va falloir apprendre la sobriété. Alors, nous, on milite pour que ce soit une sobriété qui soit choisie dans le bonheur, parce que le vélo, c'est du bonheur en barre. On essaie de le retransmettre à travers l'émission. Et ce projet de société-là, on veut qu'il soit choisi. On veut pas qu'il soit subi parce que, ben, on va faire des grèves parce que le pétrole est trop cher, etc. Donc, on milite pour la paix future, en fait.
Votre idée, c'est de devenir un amplificateur du monde de cette vélorussion, parce qu'il y a beaucoup d'associations, il y a des manifestations, il y a des garages solidaires, enfin des ateliers solidaires, il y a des recycleries où aussi on s'intéresse à la réhabilitation des vélos. Vous voulez faire entrer toutes ces informations à l'intérieur de vos émissions ?
Exactement ça, on veut être un point de rencontre de toutes ces bonnes initiatives. D'une part, pour échanger les idées, que quelqu'un qui nous écoute en Alsace, il puisse fournir des bonnes idées à quelqu'un qui est à l'autre bout de la France. Et puis en même temps, être une sorte de lobby positif. Si on est un point de rencontre, on peut ensuite aller voir, je sais pas, d'autres structures, puis dire, bah voilà, vous voyez, on est nombreux à faire du vélo. Nous, au sein de notre émission, on recense tout plein de structures. Si on est un point de pression, on pourra peut-être aussi obtenir des choses. Le but du jeu, c'est vraiment de rendre le vélo le plus visible possible, avec comme rêve, peut-être, de devenir une émission vidéo le plus rapidement possible.
Très bien. Alors, il y a deux adresses à votre disposition. Pausevélo.com et velotopia.fr. Et puis, on vous donnera le lien aussi, évidemment, avec nos amis de Radio Pulse à Alençon. Et s'il y a des radios associatives qui sont intéressées par la diffusion de ces rendez-vous de Pause Vélo, n'hésitez pas à joindre Eric. Merci, Eric.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Un courrier d'un correspondant de l'Orne me donne l'occasion de parler des écoles, des parents et des éducateurs. Avant de détailler le service de l'association de Flers, un mot sur ce réseau dont la première école est née en 1929. Et depuis 10 ans, ces associations ont l'agrément de l'éducation nationale en tant que complémentaire de l'enseignement public. En bref, ce réseau est un acteur important dans le soutien à la parentalité. Plus précisément, ses préoccupations portent sur la relation parent-enfant, sur la relation du couple. Il peut jouer un rôle de médiateur. Il s'inquiète des problèmes rencontrés par les jeunes, aussi bien dans la scolarité que dans la vie privée et personnelle. Les champs d'intervention sont si nombreux, je vous renvoie au site national des écoles, c'est écoledesparents.org. En ce qui concerne l'école des parents et des éducateurs de l'Orne, à Flers, l'association possède un espace de jeu, un espace de discussion avec un café des parents, un espace d'information pour des soirées, débats et conférences, un espace d'aide à la scolarité, de l'accompagnement des collégiens au soutien scolaire individuel, et puis un espace de formation pour des journées d'études afin de répondre aux besoins des familles et des jeunes. À noter donc écoledesparents.org pour le réseau national. Sylvie Le Calvez, bonjour.
Bonjour Philippe.
Le nouveau numéro, ça y est, c'est le printemps qui arrive avec vous. C'est les bourgeons, les fleurs, la campagne qui revit, mais c'est surtout les bonnes nouvelles. Et dans les bonnes nouvelles du dernier numéro du magazine Village, il y a le boom des micro-fermes, on en parle de plus en plus. Mais c'est quoi une micro-ferme ?
Alors nous, on a fait notre propre définition à la rédaction. On a choisi vraiment des toutes petites fermes puisque c'est moins de 1 hectare, alors que on considère souvent des petites fermes en dessous de 6 hectares. Donc ça a été très difficile de trouver des éléments pour voir un peu quels enseignements on pouvait en tirer. Mais on s'est lancé le défi de travailler un dossier sur des fermes vraiment très petites, de moins d'un hectare. Alors ça peut être évidemment, on pense tout de suite au maraîchage, hein, mais aussi des escargots, des pépiniéristes, ou pourquoi pas spiruline, champignons. Mmh. On a bien sûr exclu la vigne, hein, qui était un sujet à part. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire sur moins d'un hectare? Et surtout, est-ce qu'on peut en vivre et à quelles conditions?
Et à quelles conditions? Il y a une réponse et je suis assez étonné. Alors, parce que c'est les expériences qui ont été faites dans la fameuse ferme du Bec-et-Loin, dont on parle régulièrement, qui, avec l'INRA, a établi le principe qu'avec 1000 mètres carrés de culture, dès la deuxième année, on peut retirer 1 500 euros net mensuel de revenus.
Oui, alors c'est quand même à prendre avec précaution, puisque notre journaliste Stéphane Perrault, quand il est allé sur le terrain, il a rencontré quand même beaucoup d'échecs. Hein. Il prenait des contacts et puis on disait c'est pas facile. Donc c'est comme, nécessite quand même une bonne technique. Et puis c'est effectivement sur cette surface-là, mais à condition d'avoir une surface disponible à côté pour faire par exemple du compost. Donc un ensemble qui est quand même plus grand que cela. Néanmoins, c'est quand même un bon exemple, parce que 1 500 euros, c'est quand même pas rien, puisque quand on voit les difficultés de certains éleveurs aujourd'hui et les investissements considérables qui ont été faits, de se dire qu'on peut finalement vivre sur des petites surfaces et fournir une alimentation à ses voisins, que ce soit les restaurateurs, qu'on vende sous forme de paniers, qu'on vende sur les marchés, évidemment. Donc ça fait quand même une possibilité de vivre à peu près correctement, sans trop s'endetter. C'est-à-dire que si au bout de 5 ans, puisque c'est le temps qu'il faut pour voir si c'est viable, on s'aperçoit que ça marche pas, on arrête quand même, l'endettement est mineur, le matériel très peu cher à l'acquisition, et c'est quand même intéressant de se dire que sur des territoires où le foncier est rare et cher, on peut vivre et produire pour ses voisins sur une toute petite surface comme ça.
Alors, j'ai été surpris par cet article dans le magazine Village, ce dossier du boom des micro-fermes, sur une réalité, c'est que la SAFER aujourd'hui, donc la société d'aménagement, les sociétés, parce qu'elles sont plusieurs évidemment, il y a tout un réseau national, les sociétés d'aménagement foncier d'établissement rural tentent de morceler les terres pour améliorer la vente aux petits producteurs.
Oui, alors ça c'est nouveau, puisqu'avant on avait tendance à dire en dessous de 20 hectares,
oui, c'est ça.
Comme ça, dans certains secteurs, c'est pas viable. Aujourd'hui, la SAFER est complètement revenue là-dessus, surtout dans certaines régions, et permet ça. C'est quand même relativement marginal, et ce qu'on voit, c'est qu'à peu près 25% quand même des personnes qui s'installent sur une petite ferme, ce sont soit des fermes familiales, où un oncle, un parent a décidé de laisser un petit bout à un de ses enfants ou à un de ses neveux, ou alors c'est un voisin sympathique qui trouve l'initiative intéressante et qui le fait. Donc ça reste quand même un souci malgré les efforts des institutions aujourd'hui. On peut parler aussi de la mutualité sociale agricole qui permet aujourd'hui de, pour pouvoir avoir le statut d'agriculteur, de dire c'est pas seulement le nombre d'hectares qui compte, il faut travailler 1200 heures annuellement. C'est un grand progrès de la part des institutions. Mais il y a encore du chemin.
Ouais. Beaucoup d'exemples. Alors parfois il y a des vocations, parfois il y a du hasard. J'aime bien le hasard de Rémi dans l'Ain qui est devenu par hasard, jardinier maraîcher, 1700 mètres carrés, il fait un élevage de volailles rustiques, et puis finalement, il arrive à trouver un équilibre avec les marchés, les restaurants auxquels il vend ses productions, et puis la vente sur place.
Oui, alors c'est sûr que plus on vend localement, bien sûr, mais plus aussi on diversifie sa production, c'est-à-dire que faire du maraîchage et un peu de volaille, par exemple, ça peut être un atout, ou profiter de l'hiver, pour certains, pour faire aussi un autre métier, je pense aux maraîchers, y en a un notamment, Michael, dans l'Orne, justement, qui, à côté, l'hiver, est dessinateur industriel, en attendant de trouver une production suffisamment rentable de légumes l'hiver. Donc il faut souvent aussi jouer, y compris parfois avec le salaire du conjoint, au démarrage de l'activité pendant 4-5 ans pour rendre ces petites exploitations viables, mais il y a quand même de très beaux succès, on le voit bien dans ce dossier.
Et comme à chaque dossier du magazine, vous avez des liens, les contacts, les propositions de lecture et d'information, le boom des micro-fermes dans le dernier numéro du magazine Village, vous avez trouvé les liens à nos pages d'émission. En vous remerciant Sylvie, en remerciant également nos confrères de France Bleu Camp.
Merci Philippe, à bientôt.
La semaine prochaine, on change absolument de direction. Nous serons dans les Bouches-du-Rhône avant de traverser le Vaucluse, la Charente-Maritime et la Gironde. Merci pour vos courriers. Vous pouvez continuer à nous écrire. Merci à Frédéric Milano qui réalisait peu cher les carnets cette semaine. Merci à Joël Levert qui leur donne du contenu. Merci aux techniciens, techniciennes de France Inter qui leur donnent du volume comme aujourd'hui. Loïc Frapsos, Nicolas Stoufflas, c'était Yann Payret, le jeu des 1000 euros. Réma Larenperche.